zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans les ondes buissonnières. Après le premier épisode nommé Airport City, les ondes buissonnières vous proposent la suite de la série Aérophone. En l'espace de 30 ans, la base militaire de Biercé est devenue Liège Airport, un aéroport de marchandises ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans cette série, les auteurs arpentent le terrain, captent les désirs, les grincements et les tumultes que l'aéroport fait naître. Une série documentaire radiophonique de Marc Monaco et Sébastien Demeff. Deuxième épisode, les maîtres de l'entrepôt. Bonne écoute.
L'aérophone, un documentaire radiophonique de Marc Monaco et Sébastien Demeff. Deuxième épisode, les maîtres de l'entrepôt.
Quality 4390 Liège identified, turn right heading 2900, vectoring first approach runway 04 right, information Juliet valid, descent to 4000 feet, can you turn off?
Bon, ça fait combien de jours que vous êtes là ?
Depuis lundi passé.
Depuis lundi passé ? Ah oui, ben voilà ce qu'il y a, voilà, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ?
L'introduction à
l'aérien. Allez, je vais faire le schéma d'un aéroport. On va parler un petit peu des métiers, là.
Vincent Dernier, formateur au forum logistique pour les travailleurs sans emploi.
Alors, on va voir, hein ?
Il y a du brouillard.
Il y a du brouillard, ouais. Je vais essayer de le mettre en noir encore. Ça, c'est la piste d'atterrissage. Alors, on a l'aéroport vitré, là, d'accord. On va dessiner la tour de contrôle. On va dessiner TNT.
Et le forum aussi.
Ouais, le forum, il est par là, hein.
Non, je sais.
Voilà. En gros, c'est ça, hein. TNT. Et effectivement, FedEx, parce qu'on sera... pas donc parler de TNT sans FedEx maintenant. FedEx a racheté une partie de TNT. Il a racheté TNT, centre de tri. Un centre de tri, d'accord. Dans le langage de l'aérien, on appelle ça un hub. Ouais. Et TNT est à Biercé. Donc ils ont un maillage qui est mondial, hein, TNT. Il a dit, tous les avions qui arrivent du monde entier, moi je vais les recevoir à un seul endroit en Europe. Et je vais choisir Liège. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Liège, à votre avis ?
C'est au centre de l'Europe. Le triangle,
on est au centre du monde, ça je suis d'accord.
Non, de l'Europe. Et
puis, de l'Europe.
Je crois qu'on est plaque relais.
Qu'est-ce qui nous entoure, en fin de compte, comme moyen de communication ?
Les autoroutes.
Les autoroutes, hein, y a 6 autoroutes autour de nous. Hein. D'accord ? Maastricht, Aix-la-Chapelle, Luxembourg, Namur, Bruxelles, Anvers, d'accord ? On est vraiment au centre d'un nœud autoroutier. Quoi encore ?
La voie ferroviaire.
La voie ferroviaire. Ici, un terminal ferroviaire avec des Chinois qui arrivent ici, derrière. D'accord ? On a ? Les bateaux, fluviales. Hein ? Génial. On est vraiment au centre d'un nœud logistique ici.
Il y a des beaux bébés là, c'est des 2747 ici dans la première partie, et plus loin c'est un avion Air Belgium, un 340. C'est ce qui est le plus gros hein, avec les Antonov, c'est vraiment des beaux bébés, des gros porteurs, des cargos. Dans le domaine aéroportuaire, soit on adore parce que ça fait penser à Saint-Exupéry, l'homme qui a su apprendre à voler, etc. Soit on déteste parce que l'avion représente beaucoup de pollution, etc. Donc, c'est un peu l'histoire de la SOER, d'avoir un équilibre entre les deux, entre cet émerveillement par rapport aux oiseaux blancs, tout en ayant un regard appuyé sur les enjeux climatiques et environnementaux. Mais voilà, quand je vois ça, y a toujours un émerveillement un peu d'enfant.
Nicolas Tisken, président du comité de direction de la SOER, Société Wallonne des Aéroports.
J'en profite donc pour présenter la SOER. La SOER est un bébé de ce qu'on a appelé le modèle wallon de développement aéroportuaire. Ce modèle wallon, il a été créé en 2001. C'est une société publique à 100% capitaux wallons. Donc notre actionnaire unique est le gouvernement wallon. Alors la SOER a un métier d'infrastructure où on crée, on facilite les infrastructures. Le deuxième métier, c'est le métier d'accompagnement environnemental qui garantit effectivement que ce développement aéroportuaire ne se fait pas comme des cow-boys, ne se fait pas n'importe comme on pourrait le voir dans d'autres aéroports. Un autre métier que nous affectionnons également, c'est tout l'équipement des zones d'activité économique entourant le périmètre aéroportuaire. Et lorsqu'on se lève le matin, nous, à la SOER, ben on est très fiers de pouvoir se dire que oui, on crée de l'emploi. Oui, on crée une certaine émulation, une certaine fierté. On parlait tout à l'heure de la fin de la sidérurgie, de la fin des grandes industries en Wallonie. Mais oui, il y a une fourmilière qui est en train de se recréer ici à Liège. Et on aimerait de créer une communauté aéroportuaire ici à Liège qui rende la fierté au Wallon par rapport à cet outil.
Bon, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? On voit ici une machine, ici, qui est un...
élévateur.
Et le terme exact sur le site d'un aéroport ?
Un lift.
Lift, oui, quoi ? C'est un height loader. Et le monsieur est ici. Il y a des gens qui ne font que ça sur le site d'un aéroport. Charger des avions et décharger des avions. OK ? Et quand vous allez pouvoir postuler, quand vous allez être intégré chez un handler notamment, vous pouvez demander à un moment donné à passer dans votre objectif professionnel. Vous voulez devenir height loader par exemple. OK ? Ça va ? Alors, tous les métiers que vous allez trouver sur le site de l'aéroport ici, comme ça, ils font la même chose dans tous les aéroports du monde. C'est important ça. Si vous avez fait marcher un height loader ici, vous pouvez aller à Shanghai, c'est le même principe quoi. Et à votre avis ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du plan de chargement ?
C'est sûr. Ben oui.
Le Loadmasters.
Très bien. Loadmasters. Effectivement, un métier aussi que vous pouvez faire. Tous les Loadmasters que je connais, ce sont des gens qui ont commencé comme vous, qui ont construit des palettes avions. Et à un moment donné, ben, les sociétés ont eu certainement confiance en eux. Hein, ils leur ont donné une petite formation supplémentaire et ils sont devenus, ces gars-là, Loadmasters. Les maîtres du chargement. Pourquoi ? Parce que pour être loadmaster, extrêmement important, un avion cargo notamment, doit être équilibré. Ici, le gars du height loader, il rentre la palette. On voit que cette palette est certainement lourde. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas rentabilisée à hauteur, cette palette. Ils sont à 2, 3 et même 4 à la pousser, vous allez voir, avec le filet là, qui est accroché à la palette. Et ils voulaient la mettre dans le fond. OK ? Et vous allez voir qu'à la fin, ils vont lever les loquets. Et clac, tu dis. Et la palette, elle ne sait plus descendre. Extrêmement important. Je vais vous montrer une petite vidéo, d'accord, d'un avion. C'est un 747 cargo qui décolle et toute la marchandise va aller à la queue de l'avion. Il va être complètement déstabilisé et il va se crasher. Vous allez voir.
L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle économique pour l'aéroport de Liège-Bierzay. Nous y rejoignons Céline Liégeois. Céline, bonjour. La direction de l'aéroport confirme un accord avec un géant du commerce en ligne.
Oui, voilà, le géant chinois se prépare à se poser ici à Bierzay. C'est ce qu'a annoncé Chinao, le bras logistique d'Alibaba. Il a choisi de construire ici sur ce site son futur centre de distribution européen, ce qui signifie potentiellement eh bien, des centaines d'emplois. Alors des négociations sont toujours en cours, mais des rencontres au plus haut niveau ont eu lieu. Le Premier ministre a notamment rencontré Jack Ma, le responsable, le patron du géant chinois. Je vous propose de regarder le reportage réalisé ce matin avec Sandrine Lambiotte et Simon Arnould.
Dans cette nuit-là, gros bonita par la fenêtre. Ah ben ici, il y a des châtaignes. Le jardin avec la piscine remplie d'algues, beau jardin avec un pommier, tilleul, des framboisiers, des pommes sur l'arbre. Il était tard dans la piscine, une souris morte. Avec une vieille caisse enregistreuse.
Ce qui est très drôle, c'est que le jardin est entretenu. L'herbe est tondue.
Ah, c'est vrai, ça. Tu veux une pomme au kérosène ?
Non, merci. Je n'ose pas. Tu vois, regarde, ça a été fait. La maison ici a été abattue. Ça a été habité, ce n'est plus habité depuis quelques années. J'irai 2-3 ans, mais pas plus que 3 ans. Alors est-ce que la SOR vient faire la pelouse ?
C'est bon, mon pomme. Non.
En fait, suite au développement de l'aéroport de Liège, on a mis en parallèle des mesures d'accompagnement en définissant des zones autour de l'aéroport, en partant de la zone A, la zone la plus proche, à la zone D, la plus éloignée. Et donc, suivant la zone, les riverains ont droit à certains privilèges, entre guillemets. Donc, ça passe de la vente à la sonorisation ou à la prime forfaitaire.
Bénédicte Grand-Gagnage, conseillère communication de la SOAR.
Donc en zone A, on a d'office exproprié et racheté les bâtiments. On les a aménagés, on en a fait des zones d'activité économique que vous avez pu voir tout à l'heure. En zone B, les gens ont la possibilité soit d'insonoriser, soit de revendre également leur habitation à la SOAR, oui, c'est ça, okay. Qui travaille pour compte de la région wallonne. Hein. Et donc ces habitations-là qui ont été rachetées par la SOAR font partie de notre parc immobilier. Et donc sont insonorisées et remises à la location ou même à la revente. Il y a certains biens qu'on revend après insonorisation et remise en état du bâtiment. Et donc ça nous permet de valoriser ce patrimoine, mais aussi d'avoir un espèce de retour sur investissement par rapport à toutes ces acquisitions. Il n'y a rien à faire. On ne travaille pas non plus à enveloppe ouverte. Et donc, on a des comptes aussi à rendre à la région Wallonne. Et donc, voilà, en zone C, comme c'est le cas ici, les gens ont le choix de l'insonorisation. Et donc, ce sont nos équipes techniques, mesurage, certains taux de décibels, de dB à respecter, pièce de jour, pièce de nuit. Et en fonction de ça, ben, vous l'entendez, la dame est très contente parce que non seulement elle a moins de bruit, mais en plus, sa maison, elle a été isolée, puisque des meilleurs châssis ont été installés. Une nouvelle porte complètement vitrée, donc ça lui amène énormément de lumière. Donc c'est une certaine valorisation du bien aussi, qui apporte un bien-être aux habitants. Et c'est l'objectif.
Nous subissons depuis 1998 des nuisances de plus en plus importantes dans le village de Fontaine.
Christian, riverain de l'aéroport.
Et voilà, on a fait construire, on a eu le permis de bâtir, et puis voilà. Quelques mois après, à peu près au moment où on a terminé une grosse œuvre, on nous a annoncé l'extension, l'arrivée de TNT, etc. Et puis voilà. Alors on a démoli des maisons par dizaines, dont certaines qui ont été construites après la nôtre. Et je dis depuis un certain temps que nous avons mangé notre pain blanc, parce que maintenant, avec l'arrivée d'Ali Baba, tant mieux pour l'emploi, il faut une activité économique, je suis tout à fait d'accord. Mais nous dire avec toutes les nuisances qu'on a déjà subies, et ici, moi je dis parfois à la blague, je suis le concierge de l'aéroport, parce que bon, c'est la deuxième maison à côté de la piste.
Ici on est en quelle zone ?
B prime.
B prime. Okay. Et la zone A, en fait, s'arrête là.
Oui.
Au bout de votre jardin.
Oui, oui, oui. On peut avoir une aide, bon, l'isolation, mais bon, voilà, je n'ai pas sollicité d'aide parce que bon, ce serait, vu la configuration de la maison, ce ne serait pas possible, ça deviendrait inhabitable. Et puis, vous savez, bon, isoler complètement une maison, je n'ai pas envie de vivre dans les champignons non plus. Bon, disons vers 11h, je sors le chien, je m'assois un peu sur la terrasse et je vois les phares des avions arriver. Et puis j'entends atterrir, je prends une bonne dose de kérosène et je vois déjà le suivant. Et c'est comme ça, en permanence. La rue du Ferdou continuait là et il y avait encore des habitations qui ont été démolies. Il y avait une ferme ici, là au coin, et on avait des amis qui habitaient à côté de la ferme. Et il avait une serre et il récoltait l'eau de pluie de la serre. Et avant, disons 98, il pouvait quasiment boire son eau, c'était de l'eau de pluie. Il m'a appelé un jour, il m'a dit « viens voir mon tonneau ». Il y avait une couche comme ça, d'huile d'un centimètre sur son tonneau. Donc voilà, ça retombe partout, ça retombe sur nos arbres, ça retombe... Et ça ne doit pas être excellent pour la santé. Et donc, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais on a depuis quelque temps de plus en plus d'arbres qui meurent. Ici, il y avait 8 sorbiers, il en reste 2. Tous nos arbres fruitiers se sont dégradés et sont morts maintenant. Quand on touche les feuilles, elles sont un peu graisseuses, elles sont... Il y a une poussière noire en permanence. Bah, il reste quoi ? C'est le dernier village gaulois. Hein. Il reste une famille là, il y a encore 2 personnes là. Et au coin, là, monsieur est mort. Et puis, c'était un village qui était très vivant. Il y avait des commerces. Il y avait une supérette, il y avait un boulanger, il y avait... quasiment tout, à part une boucherie. Maintenant, on a juste le droit d'être malade dans le village parce qu'il ne reste plus qu'une pharmacie.
C'est une ancienne base de l'OTAN, donc l'OTAN obligeait les bases militaires à avoir une deuxième piste de contingence en cas de problème de la piste principale. Eh bien, nous allons nous occuper pendant les 4-5 prochaines années à allonger cette piste de contingence, puisqu'elle est un peu trop courte à l'heure actuelle pour pouvoir accueillir des gros avions comme vous voyez ici. Évidemment, il faudrait presque une carte pour vous montrer les perspectives, mais finalement, on arrive à une certaine saturation au sud. Et donc, les perspectives de développement, c'est d'utiliser tout ce que les militaires utilisaient par le passé. C'est-à-dire de recycler le territoire occupé précédemment par les militaires en dalles comme celle-ci, pour accueillir des avions civils, pour faire des entrepôts, pour accueillir les différentes marchandises qui sont ici à Liège. Les perspectives sont relativement claires. À horizon 2030-2040, nous allons glisser en parallèle aux pistes, jusqu'à la fin du périmètre aéroportuaire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a des éléments de type gestion des eaux, il y a également des éléments de type gestion du... On appelle ça une espèce de corridor vert, c'est-à-dire que nous voulons compenser d'une certaine façon la bétonisation, la minéralisation du territoire, en recréant un corridor écologique tout autour et ceinturant le périmètre aéroportuaire. On crée des merlons, on crée des mares. Et donc voilà, notre carnet de commandes au niveau de la SOER pendant les 20 prochaines années est bien connu. Alors pour l'avenir, il est clair que on a parlé d'hydrogène tout à l'heure. On a parlé de kérosène biologique, hein, de kérosène issu d'autres moyens que le kérosène de type fossile. Il y a évidemment les grands avionneurs, Boeing, Airbus, etc., etc., se lancent dans des recherches effrénées pour avoir des avions électriques, des avions autres, finalement, avec une autre motorisation. Voilà, le génie humain dont on parlait tout à l'heure est en mouvement, et je ne doute pas à un moment donné que l'aéroport de Liège pourra accueillir, dans un proche avenir, espérons-le, des avions de type expérimentaux, et de plus en plus, des avions qui consommeront de moins en moins. Donc il y a évidemment tout un écosystème de logistique qui se crée à Liège, avec cette plateforme ferroviaire, avec cette connexion au niveau autoroutier, mais également avec les connexions intercontinentales et les connexions intra-européennes. Donc c'est éminemment complexe. On a besoin de grands avions, on en voit ici. On a besoin de plus petits avions, ils sont plus au sud. Et on a besoin de moyens avions. On a besoin de camions, on a besoin de peut-être demain de drones, et on aura besoin également de trains pour acheminer les différents produits.
Brocante annuelle du village de Bierzet.
Il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas un Mirage, quand même.
Brocante et Mirage. Et le Boeing 737.
Made in China.
Bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, ils sont à combien, les petits avions?
Ils sont à 2 euros.
Pour apprendre Air Canada.
Merci. Merci, madame.
Pour aller voir les cousins.
3, c'est une affaire, hein. C'est tout nouveau.
Ben voilà.
Non, c'est toujours tout pour rien. Moi, j'habite près de l'aéroport. C'est la rue de Croteux, ça s'appelle. Bon, on a les nuisances de l'autoroute. Mais à comparer des avions, c'est rien. Ben, c'est surtout les odeurs. Mais alors, il y a le bruit, mais c'est la nuit, ça.
Mais
on est fatigué. On ne s'en rend pas compte, mais on est fatigué quand on se lève le matin. On n'a pas bien dormi. Parce qu'il y a les clarques aussi. On entend pip, 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 pip.
Et les tirs pour les oiseaux.
Et alors, pour les oiseaux, on effraie les oiseaux. Et puis, paf, 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 pour effrayer les oiseaux. Parce qu'ils changent toujours les bruits. Parce que les oiseaux s'habituent. Disons comme ça va se développer. On aura encore d'autres nuisances, puisqu'il y aura du trafic.
Ah oui, les camions.
On va avoir des petites entreprises. Enfin, on va avoir un parc industriel, quoi.
Oui, là, ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est énorme, hein.
Pour installer tout ça, ils vont faire du bruit. Vous allez vers Jemmeppe. Avant, sur les côtés des routes, vous aviez des terrains qui n'étaient pas cultivés. C'était des zones... C'est vrai, on pourrait dire que c'est des mauvaises herbes. D'accord. Mais seulement, là, il y avait peut-être des petits animaux cachés, il y avait des oiseaux qui nichaient, il y avait tout ça. Eh bien non, maintenant, dès qu'il y a un petit terrain, paf, on construit, on est construit un immeuble. Partout, on essaie de produire. Il faut que ça rapporte. C'est tout. Les gens, maintenant, ils ne laissent plus aller la nature à elle-même. Il n'y a plus de coin nature. On ne peut plus laisser un terrain sauvage. Et alors les gens, ils sont, entre guillemets, ils ne savent pas, mais ils croient que la mauvaise herbe est une mauvaise herbe, alors que c'est une bonne herbe. Hein. Parce que c'est peut-être la meilleure des herbes.
Ah ouais.
Ouais, c'est drôle, hein.
La logistique, c'est une infrastructure du capitalisme. C'est une infrastructure fondamentale, stratégique. Et si on l'enquête, c'est pas juste pour dire c'est dégueulasse pour les ouvriers. C'est parce qu'il y a un vrai intérêt à enquêter des secteurs comme celui-ci pour les militants. Infrastructure, ça veut dire qu'à la fois, on va enquêter sur ce qu'est l'infrastructure de nos vies, ce qui fait qu'on peut aller dans un supermarché, acheter des produits dans des rayons où il y a une profusion permanente, un renouvellement permanent des produits, ce qui fait qu'on peut cliquer sur Internet et recevoir un colis chez soi en 24 heures. De comprendre ça, de comprendre la matérialité de tout ça, et pas juste le site Internet, pas juste l'algorithme, ou pas juste la vitrine du magasin. Pour comprendre tout ça, il faut aller voir un peu ce qui se passe dans la logistique.
David Gaborio, chercheur en sociologie du travail.
Il y a tout un cadre universitaire dans tout ça, mais la méthode, quand même, c'était de faire de l'intérim dans les entrepôts. C'est des lieux qui sont difficiles à pénétrer, donc un moyen assez facile de le faire, c'est de faire de l'intérim. De se faire embaucher dans des boîtes et d'observer pendant 2-3 mois à chaque fois dans un entrepôt comment ça se passe. En fait, en Europe, on parle toujours de désindustrialisation, c'est un terme qu'on entend tout le temps, voire de fin du monde ouvrier. Depuis les années 80, on nous parle tout le temps de ça. C'est complètement faux. Alors, il suffit de regarder les statistiques, il y a encore 20% d'ouvriers en France. Hein. Mais ce que montre aussi la logistique, c'est qu'effectivement, on a perdu un petit aspect. On n'a pas perdu, il s'est un peu restreint, il a diminué, mais il reste assez fort. Hein. Un petit aspect du monde ouvrier qui est le côté production. Il y a de moins en moins d'usines, au sens de l'usine manufacturière, où on produit des objets, des micro-ondes, des fringues ou autres. Ça, on en a un petit peu moins. Mais le mécanisme assez simple à comprendre, c'est que quand on se met à produire très loin, donc quand on délocalise, il y a un truc qui devient essentiel, c'est qu'on doit gérer la distance entre les lieux de production et le lieu de vente. Et pour ça, il faut une infrastructure logistique essentielle. Donc ça, c'est la première chose, de dire, voilà, le monde ouvrier s'est déplacé, on a remplacé des ouvriers de la production par des ouvriers de la circulation. Et puis le deuxième truc de ma thèse, c'était toujours cette idée d'usine à colis, c'est de dire comment ces entrepôts-là, qui jusque dans les années 80, quand c'était pas encore trop stratégique la logistique, c'était très vétuste en fait. Il n'y avait pas de nouvelles technologies, c'était que des bouts de papier, c'était poussiéreux, un peu crade. C'était pas des vraies usines dans ce sens-là, hein, c'était vraiment assez archaïque. Mais à partir des années 80, 90, puis très fortement début des années 2000, c'est là vraiment qu'il y a eu un boom, ils se sont transformés en des vraies usines au sens où le travail... C'est beaucoup rationalisé. Et notamment avec un outil qui a tout changé dans l'entrepôt, c'est le logiciel. Des logiciels pour les entreprises qui gèrent tous les flux. Et ce qui se passe, pour le simplifier, mais à peine, parce que c'est vraiment comme ça, aujourd'hui, la caissière du supermarché, dès qu'elle flash le produit à la caisse, il y a un logiciel qui enregistre le fait qu'il y a un produit qui est manquant dans le supermarché, qu'envoie l'information directement à l'entrepôt qu'il va falloir livrer un nouveau produit au supermarché. Donc il y a une chaîne d'information comme ça, qui se produit et qui circule très très vite.
Écarte-toi, écarte-toi.
Mais tu veux qu'il me fasse croire qu'il a fait 600 pas.
Donc une fois que vous avez déplacé votre marchandise, vous reverrouillez directement derrière pour ne pas que votre palette se barre.
Depuis 2007, je suis chauffeur poids lourd international.
Anatoly, stagiaire au Forum Logistique.
Je suis marié, j'ai 3 enfants. Les enfants, ils commencent à grandir et c'est pas une vie d'être tout le temps sur la route.
Allez-y, allez-y, prenez le filet. Voilà, mettez-le par ici et on va l'étaler après.
Voilà, j'ai voulu changer complètement de travail.
Donc là-bas, c'est quoi? Je prends ma slave palette, je mets une PMC, je mets le film plastique en dessous, je commence avec mes madriers et puis je construis.
Alors, je vais faire mon stage chez LAX à l'aéroport à Birzé. On verra bien maintenant. Si tout va bien, j'aimerais postuler chez eux pour travailler, pour avoir un contrat et ainsi de suite, quoi.
Tu prends la palette ici en dessous, tu lèves et puis tu marches. Comme ici. Je sais bien que t'es fort, mais le but, c'est pas de se faire mal au dos. Voilà, tu vois.
Et c'est des heures en pause, c'est 3 pauses, et voilà, c'est ce que je recherchais.
Si vous voyez, vous avez encore des crochets qui restent encore attachés, vous les détachez. Pas les cordes, bien entendu.
Mais maintenant, voilà, comme je vais rentrer maintenant là, je vais apprendre dans le dépôt, je vais apprendre partout. Et si je peux choisir, ce sera sur la piste.
Une fois que c'est fait, qu'il est bien bombé, vous le retournez dans l'autre sens et vous partez directement en hauteur.
J'adore les avions. J'aime bien les avions. Et, ça va vous paraître peut-être un petit peu marrant, mais je regarde les émissions sur Discovery avec l'aéroport de Dubaï et tout le machin, comment on charge les avions. Ça me plaît. Je n'ai jamais fait ça, mais en le voyant, je me dis, ouais, ça pourrait me plaire, ça. Je me disais, ça c'est en Amérique, c'est à Dubaï, il n'y a pas des machins comme ça ici. Et ça me plaît, voilà.
Avance.
Mourad.
Translate vers la droite un coup.
La mise à l'horizontale avant de monter aussi haut.
Encore un peu. C'est bon, avance. Hop. Translate un coup vers la gauche.
J'ai rien appris au stage. Absolument rien. Et j'ai fait du démontage de palettes. J'ai fait que ça. Du cassage de palettes pendant 8 heures, pendant les 6 jours où j'étais en stage. Et je me suis blessé au dos. Et la dame des ressources humaines de chez BAS m'a dit « Ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas envie de travailler, machin, etc. » Elle a commencé à me prendre la tête. Donc je me suis pris la tête avec. Et au final, c'est moi qui lui ai dit « Bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est mieux ici. » C'est vraiment une grosse déception, du moins de mon côté.
David, ancien stagiaire au Forum Logistique.
Quand on voyait leur pub pour cette formation-là, ils passaient des messages à la radio, à la télé, sur RTC, etc. Donc, je me suis dit, il y a du boulot, quoi. Allons-y, ça tombe bien, quoi. Mais apparemment, quand on voit la réalité derrière, c'est pas tout à fait ça. Ce que je voulais, c'était travailler à l'aéroport, clairement. Ce qui, au final, n'est pas le cas. Et on était censé avoir le badge d'accès à l'aéroport. J'en ai jamais vu la couleur. Alors, on est 4 à être restés à l'aéroport sur 12, quoi. Moi, non. Parce que j'ai eu du bol, une fois que j'ai eu terminé, j'ai une agence intérim qui m'a téléphoné directement derrière. Et moi, je me suis retrouvé chez Perolive. Et là, j'ai pu utiliser Retract, Frontal, Gerber, j'ai vraiment pu utiliser toutes les machines. Heureusement pour moi que j'ai trouvé chez eux pour pouvoir faire quelque chose de ma formation.
Vous, par rapport à l'intérim, qu'est-ce que vous pensez, parce que vous avez dit que vous avez votre...
Moi, ça fait 20 ans que je travaille, donc j'ai été intérimaire, CDI, CDD, enfin, j'ai eu un peu de tout. Et je vais être peut-être un petit peu direct, mais intérimaire, en gros, c'est bouche-trou. En gros, on te fait faire le travail de merde, et quand tu ne corresponds pas, après 2 jours, c'est au revoir, alors qu'on te promet mon jeu merveille.
Moi, la vie d'un intérimaire, vous ne savez jamais de quoi demain sera fait. Vous ne pouvez rien prévoir à l'avance. Ça, bah, on peut me téléphoner. J'ai du coup avec Vincent Logistique. J'étais en train de m'occuper de mon gamin. Il était 9h10 du matin. Ils m'ont téléphoné. Vous pouvez être là pour 10h? Oui, laissez-moi le temps de m'habiller, j'arrive. Voilà, donc ça a été m'habiller vite fait, faire mes tartines et je suis parti travailler. Voilà, c'est intérimaire, c'est ça. Et puis si vous dites non trop souvent, bah, à la fin vous ne téléphonez plus. Ça, c'est, ils prennent votre dossier, hop, ils le clôturent, et merci, bonsoir, et c'est fini.
Quand t'es intérimaire, c'est mettre ta vie entre parenthèses. Tu veux essayer de créer quelque chose, bah, c'est compliqué.
Donc les trois quarts du temps, c'est ça en fait. C'est remplacer quelqu'un qui a été malade. Ou alors c'est des entreprises comme Skechers ou quoi, qui ont des grosses commandes et qui là ont besoin vraiment de gérer un gros flux d'un coup. Mais une fois que le gros flux est fini, hop, tous les intérimaires sont dehors. C'est, voilà, intérim, c'est ça en fait. Ou alors des fois, il y a un poste qui se crée, donc ils essayent quelqu'un qui finit après au contrat, mais ça devient rare, très rare.
Dans tous les entrepôts, c'est presque comme ça. On a un listing avec une commande. C'est la commande du supermarché. On doit aller chercher tous les colis. On les met sur une palette. On la dépose sur le quai. Et elle va être envoyée dans le supermarché ou dans le point de vente.
Le picking. Ouais.
Le picking, quoi. Mais à partir du moment où des outils ont permis de connecter le logiciel, ça a tout changé. Celui que moi, j'ai observé, ça s'appelait la commande vocale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce truc-là. Donc, la commande vocale, c'est un truc qui existe dans tous les entrepôts de la grande distribution alimentaire. Donc, Carrefour, Leclerc, Super U et les équivalents belges. Et que sous commande vocale, en fait, tous les ouvriers dans les entrepôts, ils ont un casque sur les oreilles, ils ont un micro devant la bouche, et c'est une voix numérique, par l'intermédiaire du logiciel, hein, une voix numérique qui leur transmet tout ce qu'ils doivent faire, point par point, et eux, ils doivent valider tout ce qu'ils font en prononçant des mots-clés par reconnaissance vocale. Donc il y a une espèce de dialogue, mais dialogue entre guillemets, hein, dialogue hyper glauque, qui se produit, vous commencez votre journée, vous mettez le casque, vous allumez le boîtier que vous avez à la ceinture. La machine vous dit « Commencez mission ?»« Ok. » Donc on dit « Ok » à peu près 3000 fois par jour. « Allée 1 ?»« Ok. » Donc on va dans l'allée 1. « Emplacement 36 ?»« Ok. » »« 3 colis ?» Et on prononce les nombres à chaque fois. « 1, 2, 3. »« Ok. » Et ainsi de suite, toute la journée. Donc vous voyez bien ce truc qui connecte directement l'ouvrier au logiciel et qui va déterminer tous ses mouvements dans l'entrepôt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur cette technologie, comme effectivement elle est dérangeante, hein, il suffit de, j'en ai parlé deux secondes, il y a déjà des gens qui font oh, c'est quoi. Comme elle est dérangeante, les gens ils trouvent des manières de la détourner. Donc il y a tout un registre d'humour sur la commande vocale dans l'entrepôt qui est hyper fort. À chaque fois qu'on arrive devant un emplacement, on est obligé de donner le code qui est devant l'emplacement pour bien montrer qu'on est au bon endroit. Donc c'est deux chiffres à chaque fois. Et en fait, ça c'est tout le temps détourné. Au lieu de dire 4-1 par exemple, puisque c'est juste de la reconnaissance vocale, on peut dire 4-1. Et la machine, elle entend pareil et elle continue. Et en fait, au lieu de dire 2-2, on peut dire ne-ne. Et il y a des gens comme ça qui font, ils appellent ça des combos. Tu peux enchaîner plusieurs prises comme ça en faisant que des jeux de mots. Et ça, c'est une manière aussi de s'éloigner un peu du stigmate du robot. Donc c'est une manière de le prendre en charge symboliquement pour soi, pour éviter un peu ce stigmate du robot, des problèmes que ça pose pour la représentation de soi-même, quoi, de travailler comme un robot. L'humour, c'est un moyen de faire ça. Les robots, pour l'instant, il n'y en a pas dans les entrepôts comme partout dans le monde du travail. En fait, les robots, ça n'existe pas ou très très peu. Les roboticiens, quand on les interroge là-dessus, ils ont un truc très drôle. Hein. Ils disent, mais en fait, imaginez un robot. Donc, on a tous cette image-là, on nous la met dans la tête en ce moment, hein, d'un robot humanoïde qui ferait la vaisselle chez les gens. Et en fait, les spécialistes de ce domaine-là, ils disent, oui, ça s'appelle un lave-vaisselle. Et dans le travail, c'est pareil, en fait. Les robots, c'est des machines. Donc, en ce moment, c'est un univers qui est de plus en plus mécanisé. Donc, il y a de plus en plus de machines dans les entrepôts, et notamment des tapis roulants qui font circuler les colis. Donc, ces tapis roulants, effectivement, ça modifie le travail, mais en fait, ça accélère le travail, mais en aucun cas, ça fait disparaître l'humain. C'est pas du tout l'enjeu. On peut dire qu'au niveau global, peut-être que ça va faire baisser au bout d'un moment l'emploi logistique. Pour l'instant, on n'en sait rien, c'est pas le cas, vu que c'est un secteur qui explose. Les statistiques de l'emploi logistique, elles continuent d'exploser. Il y a de plus en plus d'ouvriers de la logistique. Donc les gens qui disent qu'ils vont disparaître, il faudrait déjà que ça ralentisse un petit peu. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. il y a quand même quelques entrepôts. En France, pour l'instant, on les compte sur les doigts d'une seule main, quand même, hein, qui sont presque entièrement automatisés. Ça existe, techniquement, c'est à peu près possible aujourd'hui. C'est possible pour certains types de colis, pas tous, quoi, donc c'est vraiment spécifique. Et puis, en fait, c'est très contraignant. C'est des gros investissements, ça coûte très cher, alors que c'est beaucoup des boîtes financiarisées qui ne sont pas prêtes à investir sur très long terme. Puis ça devient une grosse infrastructure fixe, alors qu'aujourd'hui, les entrepôts, c'est hyper labile, c'est hyper léger. Les boîtes, elles n'arrêtent pas de fermer, de rouvrir des entrepôts. Une boîte comme Carrefour, par exemple, quand le prix de l'essence évolue, ils font tourner des logiciels pour savoir c'est quoi le meilleur endroit pour chacun de leurs entrepôts, et ils les déplacent de 30 km, 50 km. Donc avec des machines, on ne pourrait plus faire ça. Donc ce qui est important de constater, c'est qu'aujourd'hui, il y a un très gros décalage entre le niveau auquel on montre ces entrepôts-là. Dès que vous tapez sur Google logistique, vous tombez sur ces entrepôts-là. Il y a un gros décalage entre ça et la réalité. Et ce décalage, il a déjà un impact. Il a déjà un impact, et cet impact, il est voulu, à mon avis. Ça sert à renouveler l'idéal du capitalisme, à reproduire à nouveau une invisibilisation du monde ouvrier en nous faisant croire qu'il a déjà disparu ou qu'il va tout bientôt disparaître avec les robots. Et ça, c'est un impact idéologique pour tout le monde dans la société, pour les ouvriers eux-mêmes, et ça, c'est presque le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde ouvrier, dans la logistique, mais aussi dans les supermarchés avec les caisses automatiques, donc ces gens-là, pour une partie, croient en leur propre obsolescence en tant qu'ouvriers. Et ça, quand vous voulez mener des luttes, quand vous voulez défendre votre travail, quand vous voulez revendiquer des choses, si on arrive à vous faire croire que de toute façon, vous allez être remplacé dans pas longtemps par une machine, ça a un impact hyper fort.
L'avion vole bas.
Bon, on est tout près de Bierzé ici.
On a plus ou moins combien de kilomètres de Bierzé?
Oh, 4-5.
Ah ouais, c'est vraiment
donc, tout près. Oui, on est décolle dans ce sens-ci, donc on les a maintenant au décollage. Et quand c'est vent du nord, évidemment, c'est dans les airs l'atterrissage ici.
Et ça ne perturbe pas les oiseaux migrateurs?
Ça ne semble pas les perturber, en tout cas. Peut-être qu'il y a des collisions en vol, hein. Les petits oiseaux, c'est pas très grave.
André Burnel, ornithologue, bagueur bénévole.
Quand on parle avec des gens qui ont suivi la formation ornitho il y a 10 ans, ils trouvent déjà qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux qu'il y a 10 ans d'ici. Surtout des oiseaux des campagnes. Ici, on ne remarque pas tellement. L'année a été bonne, la reproduction a été bonne, donc on a quand même pas mal d'oiseaux. On a, en étant venu à un jour de moins que l'année dernière, donc sur le mois de juillet, on a 30 oiseaux de plus. Donc voilà, mon petit rouge-gorge ici. Hein? Pas rouge du tout. Ici, 72, 15.3.
Ouais, je vais mettre 300.
Les oiseaux insectivores voyagent principalement de nuit. Et ceux qui passent pour le moment, ce sont les oiseaux qui vont hiverner au sud du Sahara. Les grandes distances, ce sont les oiseaux qui reviennent le plus tard et qui partent le plus tôt. Alors bon, on a deux hippolaïs ici.
Elle est déjà baguée.
Elle est déjà baguée, elle peut partir. Tu as bagué les... Le fragmité.
Oui, le fragmité, c'est fait.
Je vais aller chercher mes oiseaux, mon frigorne.
Réunion du collectif Watching Alibaba. Marc Alardo, géographe.
Donc ici, au niveau d'Alibaba, qu'est-ce que nous savons? Ce que nous savons maintenant, c'est-à-dire 2019, 2021, c'est l'installation, la primo-installation d'Alibaba, les premiers entrepôts. Ça va se faire en deux temps. Un premier entrepôt plus petit et ensuite un deuxième plus grand à l'échéance de 2030. Le plus petit, on sait qu'il va être sur un terrain de 22 hectares qui sont loués par la SOAER à Alibaba. Donc Alibaba n'est pas propriétaire du terrain, il sera locataire. Nous savons que nous allons passer de 500 camions jour à 2000 camions jour sur le site de l'aéroport. Ça, c'est une déclaration de Luc Partoum, le directeur de l'aéroport. Et ce que nous savons actuellement, c'est que nous avons deux trains par semaine qui arrivent déjà sans gare de Biersey, deux trains de 600 mètres de long, avec des containers ZIH, les gros containers orange, et on en voit 200 à 300 à peu près actuellement en permanence sur la gare de Biersey, qui est du côté du centre logistique. Les inconnus, eh bien c'est les emplois. Qu'est-ce que ça va générer comme emploi? Le nombre d'avions que ça va générer en plus? Le coût pour la région wallonne? C'est pas très clair. On a certains chiffres, on va vous les montrer plus tard. Et les solutions de mobilité pour l'immobilité qui s'annonce. On peut se poser la question de la pérennité du marché aérien. Donc là, on peut aussi se poser la question du mouvement sociétal. Taxation du kérosène qui est en projet, on en parle de plus en plus. Des pays comme les Pays-Bas interdisent les vols courts, par exemple. Et si je prends en Suisse l'aéroport de Genève-Cointrain, il a limité récemment son trafic nocturne et réduit sa progression de manière à protéger les riverains et à respecter les objectifs des COP et des émissions de CO2. Il ne faut pas oublier non plus que tout ceci... Tout ce qui se passe ici à Liège Airport, c'est dans un cadre d'un immense programme du gouvernement chinois qui s'appelle les Nouvelles Routes de la Soie, dans lequel la Chine a investi 1 400 milliards pour pouvoir avoir des routes maritimes, des routes terrestres et des routes ferroviaires pour pouvoir donc là écouler ces marchandises à travers le monde.
Pour la connaissance des oiseaux, le bagage a été instauré pour suivre les voies de migration, essentiellement. Donc ça, c'est encore valable pour le moment. Il ne faut pas croire que c'est définitif. Ça bouge, hein, le milieu change, donc les voies de migration peuvent changer aussi. Mais il y a d'autres utilités du bagage, notamment le suivi des populations, voir si les oiseaux se sont bien reproduits une année ou l'autre.
Donc il y a quatre chaînes IFI, 8 diffuseurs, et je mets des MP3 en plus.
Et bon, on repasse des champs de diverses espèces pour avoir un spectre de capture assez large. Mais bon, certains oiseaux réagissent aussi à d'autres espèces.
Donc la musique tourne et on met une demi-heure à deux pour monter tous les filets.
Bon, maintenant, moi, je vais aller sortir le frac mic. Guy va baguer les oiseaux. Puis moi, j'ai encore mis deux filets à part pour voir un petit peu ce qui se passe là à côté, dans un milieu un petit peu différent.
Ça m'a l'air d'être une bonne journée, moi. Et leur course est 454. En une matinée, on devenait cinglés. Il y a un qui baguait et l'autre qui allait chercher les oiseaux. Je suis bagueur pour l'Institut des sciences naturelles de Belgique. Je suis pensionné du secteur pharmaceutique. C'est tout.
Guy Winters.
Ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on leur pose une carte d'identité. Et alors, la suite, c'est l'Institut qui s'occupe. Mais moi, je bague depuis 77, hein. Bon, juste pour l'instant, je suis à 185 000. Et je voudrais bien, fin de l'année prochaine, avoir 200 000. Comme on embarque à peu près 10 000 ici. Adultes. Les farvates.
On a nommé ce collectif Watching Alibaba parce qu'on est bien conscient qu'il y a un grand travail d'investigation à faire. Aujourd'hui, il y a un énorme blackout autour de ce dossier, et c'est peut-être le premier élément le plus préoccupant. Prenons le temps vraiment de creuser le truc, de comprendre ce qui se passe, etc. C'est la condition pour pouvoir avoir un discours pertinent sur ce truc.
François Schreuer. conseiller communal.
La question était posée, pourquoi cet engagement, pourquoi est-ce qu'on signe pour Alibaba ? Je pense que la raison, elle est simple, c'est que depuis 30 ans, un pari a été fait par l'ensemble des grands décideurs de l'agglomération de Liège de s'orienter vers la logistique, de miser la reconversion économique de l'agglomération sur un secteur en particulier qui est la logistique. Et Liège dispose de toute évidence de grands atouts en la matière. Il y a un grand réseau autoroutier, il y a le canal Albert, il y a etc. Et ce choix aujourd'hui, et je pense qu'un certain nombre d'éléments que Marc a soulignés le montrent, ce choix aujourd'hui apparaît comme une impasse. Voilà, et on en est aujourd'hui là. Et je pense que c'est parce qu'un certain nombre de responsables économiques pendant 30 ans ont tout fait pour miser sur ce scénario que quand Alibaba arrive, on n'arrive pas à poser la question dans son ensemble. On n'arrive pas à faire une étude d'ensemble des conséquences du projet. Je pense que cette étude n'existe pas, tout simplement. Personne aujourd'hui, ni nous, ni les responsables de l'aéroport, ni les responsables politiques qui signent, personne aujourd'hui n'est en mesure d'évaluer précisément quel va être l'impact d'Alibaba, non seulement sur la région liégeoise, et je pense que même le nombre d'avions aujourd'hui, on ne le connaît pas, sur le sommeil, sur la mobilité. C'est très très difficile à dire, de faire des scénarios très crédibles là-dessus, mais a fortiori, en termes économiques globales. Parce que, et je termine là-dessus, pour moi, l'élément peut-être le plus préoccupant de l'arrivée d'Alibaba, c'est l'organisation de la concurrence à outrance entre les sweatshops, voire les camps de travail forcés en Chine, et les travailleurs d'ici. Tout le secteur de la production manufacturière qui reste ici est mis en concurrence directe avec un pont aérien, avec des travailleurs sous-payés, etc. Et de ce point de vue-là, il me semble un truc vraiment important à dire, c'est que l'enjeu n'est pas d'opposer les travailleurs d'ici ou de là-bas, les Belges et les Chinois, les Belges et les Roumains, Non, la question c'est comment est-ce qu'on fait monter des standards sociaux pour tout le monde ? Comment est-ce qu'on crée des droits sociaux pour tout le monde ? Et aujourd'hui, cette dynamique de la dumping social, elle est en train de détruire les droits sociaux pour tout le monde. Question juste pour avoir une idée. Est-ce que ceux qui veulent s'impliquer activement peuvent lever la main, histoire qu'on ait une idée de, voilà, des forces qu'on a là à ce stade ? On peut compter le nombre de mains qui se lèvent ? Ça fait quoi ? Une vingtaine ?
24-3-9 6 Liège identified. Turn right heading 290 vectoring first approach runway 04 right information Juliet valid. Send to 4000 feet management office.
C'était l'Aérophone, une série documentaire de Marc Monaco et Sébastien Demeff. Avec les témoignages de Guy Winters, Marc Allardeau, François Schreuer, André Burnel, David, Anatoly, Christian, Herbert Warnant, David Gaborio, Bénédicte Grand-Gagnage, Nicolas Tisken et Vincent Dernier. Mixage Sébastien Van der Borcht, voix Nino Chiaberté. Nous remercions Sarah Fautré, Élise Van Durm, Cyril Mosset, Émilie Rouchon, Justine Paulus, Thomas Ferrando, Aurélie Aix, Christian Delcourt, directeur de la communication à Liège Airport, Mourad Bilgi, Mehdi Tekaya, Christophe Rulli, Pascal Classe, Pierre Petit, Maxime Dujardin, Éric Anselme, Daniel Sellerin, Jean-Guy Noël, Le Forem et ses stagiaires. Une production de l'atelier Grafoui, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver de la RTBF, du pôle matériel WIP Dérive et de Ressac Post-Production.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées. Yes.